Ce matin, je vais parler d'un sujet qui traite peut-être un des plus grands défis de la vie. Je vais parler de la mission du mariage chrétien. Je ne sais pas ce qui... En tout cas, je n'irai pas là. Donc ça, c'est le grand sujet, la mission globale du mariage chrétien. Et pour traiter ce sujet, je vais parler d'abord de l'essence du mariage, ensuite du but du mariage, et finalement, je vais parler du secret du mariage. Je dois dire que j'aurais beaucoup aimé entendre ce que je vais vous dire ce matin avant de me marier. Mais c'est plutôt donc, il y en a quelques-uns qui sont jeunes, pas encore mariés, donc ça vous prépare, vous allez mieux savoir en quoi vous embarquez. Et si on est déjà dans le mariage, ça va nous rappeler, ça va nous remémorer des points de repère qui rend cette institution faisable et même très profitable. Donc d'abord, l'essence du mariage. Beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, autour de nous, dans notre société, quand ils forment un couple, ils disent « nous nous aimons ». Pourquoi donc avons-nous besoin d'une feuille de papier pour légitimer notre couple? Beaucoup de gens pensent comme ça. Au Québec, je pense que le pourcentage de la population, c'est quelque chose comme 29 maintenant. Et avant, c'était dans les 90. Le monde dit, pas besoin de se marier, on s'aime, on se met ensemble. Et donc, c'est évident que l'essence du mariage, du point de vue de cette personne qui parle comme ça, n'est pas un contrat, n'est pas une transaction légale. Elle est composée plutôt de la passion et les sentiments, et pas des contrats et des affaires légales. Ça, c'est très commun aujourd'hui. Mais en contraste avec cela, du point de vue chrétien, l'essence du mariage est en réalité un contrat à long terme qui constitue une obligation sous la forme d'une alliance. Pas une phrase très romantique, hein? Alors, elle représente un lien juridique. Et même si ça va à l'encontre de la culture aujourd'hui, et même si ça semble un peu stérile quand on le dit comme ça, Tim Keller, dans son livre qui s'appelle, Monsieur Richard, c'est quoi le livre de Keller sur le mariage? La mission du mariage, en tout cas, vous l'achetez à la Centrale Biblique. C'est ouais, un très bon livre, il est exceptionnel. Mais dans son livre, il insiste sur le fait qu'en réalité, l'alliance légale rend le mariage plus intime et non moins intime. Et je vais expliquer un peu la logique derrière ça. Il explique qu'il y a deux genres de relations dans la vie en général, qu'on pourrait successivement appeler les relations de consommation et les relations d'alliance. La relation de consommation, c'est le genre de relation que vous entretenez avec votre épicier. Voilà mon épicier, Monsieur Mill. Vous entretenez une relation avec votre épicier tant et aussi longtemps qu'il vous offre un bon produit à un prix raisonnable, n'est-ce pas? Si vous trouvez un autre épicier qui vous offre des produits encore meilleurs à un prix même plus bas, vous allez changer d'épicier. Pourquoi? Parce que dans une relation de consommation, vos besoins sont plus importants que la relation elle-même. C'est logique. Mais dans la relation d'alliance, c'est d'autre chose, c'est très différent. Et voici un exemple qu'utilise Keller dans son livre pour exprimer ça. Celui du parent-enfant. Vous êtes dans une relation, vous élevez un enfant, n'est-ce pas? Et l'enfant fait des crises, il pleure, il est égoïste, il désobéit, il a mauvais caractère. Toujours un peu en cours de route, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas simplement dire, ça y est, j'en ai ras-le-bol, fini. Comme vous le ferez avec l'épicier. Et laissez l'enfant et peut-être sa petite sœur sur le perron de seuil de la porte d'un voisin. On ne peut pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez vous trouver devant un juge. Pourquoi? Parce que dans notre société, nous estimons que la relation parent-enfant n'est pas une relation de consommation, mais une relation d'alliance. Et voici une autre différence entre ces deux genres de relations. Quand vous êtes dans une relation avec un homme ou une relation romantique, sans être marié, vous savez que l'autre personne ne peut s'en aller n'importe quand. Autrement dit, vous êtes dans une relation de consommation à ce point-là. Autrement dit, vous devez vous mettre sur le marché, faire bonne figure, mettre en évidence vos qualités, parce que l'autre personne peut s'en aller à tout moment. Donc, il faut lui donner des raisons pour rester. Mais quand on se marie, ça change. Quand on se marie, quand on dit « je me lie à toi contre vent et marée », quand on a ce contrat légal, décidé entre deux adultes, cela ouvre la porte pour pouvoir dire « voilà qui je suis, voilà ce que je vis, voilà ce qui ne va pas ». On peut faire voir qui on est vraiment dans ce contexte, plutôt que de faire bonne figure. Alors le mariage est plus qu'un document légal. Cette feuille de papier crée un contrat qui produit par conséquent l'intimité. Vous voyez la logique? Bon, si ça c'est l'essence du mariage, une alliance sacrée dans un engagement à résister à toutes les intempéries tant et aussi longtemps que nous vivons tous deux, alors quel est le but du mariage, sa raison d'être? À quoi sert le mariage? Qu'est-ce que vous espérez accomplir par votre mariage? Ça, c'est le deuxième point. Je crains qu'aujourd'hui, la plupart des gens, pour la plupart des gens, le but du mariage se résume, comme j'ai dit tantôt, à l'expérience romantique et au plaisir. Et peut-être à la possibilité aussi, la possibilité de combiner nos deux valeurs nettes pour créer une vie plus confortable financièrement. Et en contraste, la compréhension chrétienne du mariage propose ce but-ci. Un profond changement de caractère au moyen d'une amitié intime. C'est l'atelier idéal où Dieu veut faire son œuvre dans notre vie. Mais c'est rarement ça qu'on recherche quand on se marie. Moi, je suis pas entré dans un mariage avec ça dans la tête. Quelle belle occasion d'être transformé dans une relation intime. Et des études empiriques et les témoignages qu'on entend de nos jours suggèrent que la plupart des gens recherche plutôt une âme sœur parfaitement compatible. C'est ça qu'on cherche. Qu'elle leur dit que quand on entre dans, si on est célibataire et on entre dans une pièce, il dit tout de suite, sans même le savoir, nous éliminons 7 sur 10 des potentiels sur des critères que nous avons dans la tête. Donc on cherche cet âme sœur compatible. Et si vous demandez aux gens ce que ça veut dire, ils disent des choses comme « quelqu'un qui va m'accepter tel que je suis, quelqu'un que je peux accepter et apprécier tel qu'il est », et les hommes ajoutent « quelqu'un qui n'essayera pas de me changer ». Si on peut trouver une femme comme ça. Bon, voyez-vous comment de tels souhaits sont en opposition avec le but du mariage chrétien? Ça, c'est pas ce que Dieu avait en tête quand il a choisi de nous mettre ensemble, en couple. Il y a un énorme problème si ça, c'est votre définition de la compatibilité. C'est-à-dire un partenaire qui n'exige pas beaucoup d'entretien, qui ne doit pas beaucoup changer et qui n'exigera pas des changements de votre part non plus. Quelqu'un avec qui vous avez cette parfaite chimie et avec qui vous pouvez vous amuser beaucoup. C'est très beau dans les films, mais ce n'est non seulement contraire du mariage chrétien, mais c'est très irréaliste, n'est-ce pas? Et voilà l'une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas, parce que ce genre de personnes qui recherchent n'existent pas. Si on est honnête, si on a des yeux grands ouverts, vous essayez de trouver quelqu'un comme ça, mais le problème c'est que vous non plus vous n'êtes pas comme ça. Quand nous nous marierons, nous entrons dans une union avec tous nos défauts, les deux côtés. Et Keller, dans son livre, il énumère quelques exemples de défauts pour nous aider à personnaliser ce que ça veut dire. Peut-être vous êtes une personne,
je sais que j'ai ça quelque part, attends.
Non, je l'ai pas mis, donc je vais juste le lire. Peut-être vous êtes une personne craintive qui a tendance à vivre une grande anxiété. Si oui, vous apportez ça dans le mariage. Peut-être vous êtes une personne orgueilleuse qui a tendance à être très égoïste. Peut-être une personne inflexible qui a tendance à être très exigeante. Une personne indisciplinée qui a tendance à être peu fiable. Une personne perfectionniste qui a tendance à être trop critique envers les autres. Une personne impatiente et irritable qui a tendance à garder rancune. Une personne lâche qui a tendance à tordre la vérité pour mieux paraître. Tout le monde arrive dans le mariage avec des trucs comme cela. Et le gros problème, c'est que je ne vois pas cette réalité dans ma propre vie. Et toi, tu ne le vois pas dans ta vie non plus. Et quand on se marie et cette réalité commence à se manifester, on a tendance à voir le problème où? Dans l'autre. Elle m'a déçu, elle m'a trompé, je pensais que... Non. Et puis un jour, ces personnes avec tous ces problèmes-là, ils se marient et ces défauts qui causaient déjà des problèmes dans d'autres relations auparavant commencent à créer des gros problèmes dans le couple. Et l'on ne peut pas éviter cette réalité. Ça fait partie de la réalité humaine. La seule manière d'éviter ça, c'est de ne pas se mettre avec quelqu'un. Et l'on, car il n'existe pas deux personnes parfaitement compatibles. Ça n'existe pas. En réalité, le mariage fait ressortir le pire en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mariage est l'endroit idéal pour découvrir ces réalités que Dieu désire éliminer dans notre vie. C'est vraiment l'endroit idéal pour les découvrir. Et non seulement l'endroit idéal pour les découvrir, mais aussi pour nous transformer. Car le but du mariage, c'est un profond changement de caractère au moyen d'une amitié intime. Voici une citation d'un professeur à l'université Duke, aux States, Stanley Orwad, je ne le connais pas, mais il est cité dans le livre. Il dit, je n'ai pas très bien suivi mes notes, hein. Nous prenons pour acquis qu'il existe quelque part la personne qui sera parfaite pour nous et que si nous cherchons attentivement, nous trouverons cette personne parfaite. Mais cette supposition néglige un aspect crucial du mariage. Elle ne comprend pas le fait que nous nous marierons toujours avec la mauvaise personne. Nous ne connaissons pas la personne avec laquelle nous nous marierons, même si nous pensons la connaître. Ou si on réussit à trouver la bonne personne, il s'agit d'attendre un peu et elle changera. Ainsi, dans le mariage, nous ne restons pas les mêmes personnes que nous étions au début, physiquement surtout, hein. Le critère numéro un qui nous a fait choisir disparaît avec le temps. Par conséquent, le challenge premier devient d'apprendre à aimer et à prendre soin de cet étranger avec qui nous nous trouvons. Moi, je trouve ça très réaliste, mais c'est tellement pas la perspective que nous avons avant. Maintenant, si c'est vrai que vous allez toujours marier la mauvaise personne avec une personne qui est incompatible avec vous à différents égards, il est impératif de comprendre certains aspects importants qu'offre le concept chrétien du mariage, sans lesquels ça ne marchera pas.
C'est sûr. D'abord, le concept chrétien du mariage se base sur le point de vue biblique de ce que c'est le péché humain. La Bible enseigne que nous sommes tous êtres humains, nous sommes égoïstes, nous sommes pécheurs, nous voulons être le centre de notre petit univers et que tout le monde collabore avec nos projets, nos idées. C'est une caractéristique de la race déchue d'Adam et nous l'avons tous les deux. Alors, si vous êtes bien informé par cette perspective biblique, quand vous entrerez dans le mariage, vous devriez être un peu moins sous le choc de découvrir que vous êtes maintenant attaché à la vie avec une pécheur ou une pécheresse. Une des causes majeures du divorce, c'est que les gens n'ont pas été préparés pour ce qui les attendait. Un partenaire pécheur. Tout un choc si vous avez cru qu'en trouvant l'âme sœur parfaite, il n'y aurait pas de conflit. C'est tout, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est drôle, ma femme, moi, je viens d'un arrière-plan très rock'n'roll, divorce, alcoolisme, suicide, toutes sortes de choses. Ma femme vient de la famille parfaite. Jamais de conflit, tout le monde sourit, leurs photos de famille sont merveilleuses, parfaites. Dans ma famille, au moins un enfant avec le doigt dans le nez ou quelque chose. Donc, elle a très peu connu les grosses déceptions, les gros conflits. Ma mère s'est mariée 5 fois, donc j'avais d'autres occasions, une autre expérience. On se marie, très compatible. On avait un examen que le pasteur donnait aux États-Unis à des milliers, des centaines de milliers de personnes. On a été derniers, presque les plus hauts échelons à compatibilité. Mais quand elle s'est mariée avec moi, elle a découvert assez vite qu'elle s'est mariée avec un pécheur. Ça m'a pris du temps pour voir son péché. Mais quand on avait des conflits, et ça c'est vrai, ma femme, elle était tellement surprise et inhabituée, elle allait dans la chambre, elle ouvrait la garde-robe, elle sortait sa valise, elle commençait à faire sa valise. Le plus drôle, c'est qu'on était en vacances une fois en Floride, on connaissait personne. Elle a fait ça dans la chambre d'hôtel. J'ai dit, chérie, où est-ce que tu vas? Tu vas aller, quoi. Donc, on est surpris. Moi, j'étais un peu moins surpris parce que j'avais vécu le chaos tout le temps, mais ma pauvre femme, ouf! En réalité, le mariage est censé représenter le contexte où nos tendances égoïstes et pécheresses sont mises en évidence et attaquées, et finalement réduit peu à peu. On est transformé peu à peu grâce à ce contexte. Un peu comme les pierres précieuses brutes qu'on passe dans ce qu'on appelle un polisseur, dans lequel ça enlève les points et les bosses, afin de faire ressortir la beauté profonde de la pièce. Le mariage est un peu comme ça, je trouve. Alors, dans le mariage, on peut s'attendre à un accrochage constructif au travers duquel Dieu veut nous transformer, tous les deux, vers ce qu'il sait que nous sommes capables de devenir. Ça, c'est son but, faire des petits Christ, nous transformer à l'image de Jésus-Christ et dire, j'ai une idée, je connais un bon polisseur pour faire ça. Ça s'appelle le mariage. Et cela ne s'accomplit pas sans étincelle, n'est-ce pas? En conséquence de quoi, je crois qu'il est important que nous nous rappelions l'un l'autre, époux et épouse, que l'une des missions les plus importantes dans la vie est de nous aider mutuellement à devenir des personnes que nous ne serions jamais devenues si nous n'étions pas mariés ensemble. En vue de cela, moi j'ai une mission unique qu'a aucun autre homme sur la planète, jouer ce rôle dans la vie de mon épouse. C'est la même chose pour vous dans votre mariage. Vous avez cet rôle unique envers ton épouse ou ton époux pour l'accompagner dans ce processus de transformation. C'est en haut de la liste des choses importantes. Dieu n'a pas donné un autre mari à ma femme. Je suis celui qui a ce rôle-là. On pourrait dire que l'idée chrétienne, c'est que vous tombez amoureux ou amoureuse non seulement de la personne telle qu'elle est dans le moment, dans le présent, mais surtout de la personne qu'elle est en train de devenir. Voilà l'idée chrétienne. Tu dis à ton époux, ton avenir me réjouit au plus haut point. Je veux être impliqué, partenaire avec Dieu pour te voir devenir la personne merveilleuse que tu seras un jour. » Il est raconté, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ça, c'est une des images que j'aime le plus. Il est raconté qu'un jour, les passants dans les rues de Florence voyaient Michel-Ange en train de pousser un gros bloc de marbre blanc sur une petite chariot quatre roues par les pavés. Et un des passants criait, « Michel-Ange, qu'est-ce que c'est que vous avez là ?» Et Michel-Ange répondit, « C'est la statue de David et j'ai tellement hâte d'enlever tout ce qui le cache. » C'est joli, hein, l'image. En voyant le bloc de marbre, il imaginait ça. Et donc, il s'est mis à l'œuvre dans un atelier pour enlever tout ce qui cachait David. Ça, c'est une image de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et nous avons le rôle, en tant que partenaire dans un mariage, pour être un des premiers ouvriers dans le processus. Alors, l'optique du mariage chrétien n'est pas simplement le fait de vous tenir debout devant le pasteur et de dire « oui, je le veux », mais plutôt, un jour, de vous tenir debout devant le trône du ciel, où enfin vous serez pleinement tout ce que Dieu veut que vous soyez, et que vous vous regardiez l'un l'autre et dire, j'ai toujours su que tu pouvais ressembler à ça. Et j'en avais des aperçus en cours de route, mais regarde-toi maintenant. Et de savoir que tu faisais partie de ce processus que Dieu a utilisé pour rendre ton époux ou ton épouse à ce stade-là. Ça va être une belle journée. On va se regarder ce jour-là et on va dire, mais Dieu, comment tu as fait ça avec lui ou avec elle? Ça va être incroyable. Donc voilà une grande partie de la mission du mariage, tomber amoureux non seulement de la personne telle qu'elle est, mais de la personne qu'elle est en train de devenir. D'avoir une image du David, la statue qui est cachée dans la pierre qui est notre partenaire et que Dieu veut ressortir. Donc voilà le but, la raison d'être du mariage, une noble mission qui exige un coût élevé, mais qui offre des fruits incroyablement profonds et satisfaisants. Finalement, parlons du secret du mariage. L'élément sans lequel on ne peut pas accomplir cette mission. Le secret, c'est d'avoir la capacité d'aimer ton partenaire pendant des saisons où tu ne reçois que peu ou pas du tout d'amour de sa part. Réfléchissez à ça pendant quelques secondes. C'est certain qu'il y aura des périodes dans tout mariage, dans votre vie ensemble, durant lesquelles votre partenaire sera malade, découragé, absorbé dans ses propres problèmes, luttes, préoccupations, c'est inévitable. Et il sera important, dans ces périodes où vous recevez pas l'amour de l'autre, d'être capable néanmoins de lui offrir l'amour. Mais comment fait-on cela? Quel est le secret? Voici un élément du mariage chrétien qui fait toute la différence. Si on ne découvre pas ça, comment un mariage peut tenir quand l'autre nous déçoit? Tout de suite, nous déclarons incompatibilité. Non, c'est dur ce mot-là. Parce que quand mes parents se sont divorcés quand j'avais 12 ans, c'était la raison sur la chose incompatible. Oui, ça marchait pas ensemble. Mais autrement dit, parce qu'ils n'avaient pas découvert, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils n'avaient pas découvert le secret du mariage. Comment aimer quelqu'un qui n'est pas compatible? Ça, c'est le secret. La capacité d'aimer de quelqu'un qui ne nous aime pas exige que nous ayons une source d'amour en dehors de nous-mêmes. Et voilà le secret, l'élément qu'offre le christianisme. Keller appelle ça la philanthropie de l'amour. Vous savez ce que ça veut dire, philanthrope. Et voici la logique. On peut être philanthrope financièrement que si nous avons une bonne source de revenus. un gros compte de banque quelque part. La seule raison qui te permet de donner des gros montants ici et là, c'est que vous êtes en train de gagner beaucoup d'argent quelque part, ou vous avez ramassé de l'argent. Et donc, quand tu fais un don, tu t'attends pas à un retour sur ton investissement, tu le laisses avec joie. L'argent est parti. C'est pourquoi on appelle ça la philanthropie. Mais tu peux te permettre d'être si généreux puisque tu as une bonne source de revenus ailleurs. Ça, c'est important. Sans ça, tu ne peux pas être un philanthrope. Il faut travailler, juste utiliser notre argent pour vivre et survivre. De cette perspective, dans le mariage, tu peux donner beaucoup d'amour à ton époux si tu es en train de recevoir beaucoup d'amour ailleurs. Et la seule source d'un amour si fort et si abondant, c'est ta relation avec Dieu. Voilà le secret. L'idée chrétienne du mariage. Si l'amour de Dieu est une réalité dans ta vie, tu peux passer au travers des temps difficiles où ton époux n'est pas en train de t'aimer comme tu voudrais. Et pourtant, de lui offrir de l'amour. Ça, c'est surnaturel. Vous êtes d'accord avec moi? Sans Dieu dans notre vie, je ne sais pas comment ils tiennent ensemble, par voie les non-chrétiens. Ma femme et moi, on a eu notre première grosse crise, on a décidé d'attendre un peu, donc c'était la lune de miel. Sérieuse, grosse affaire, c'est en tout cas. Et ma femme a été partie pour une bonne aventure. Ça fait presque 40 ans, mais après un an et demi, on était séparés pendant 6 mois. Ça allait si mal. On voulait pas divorcer, mais on savait pas quoi faire. Donc, on a découvert un peu ce que ça veut dire. Donc, quand tu passes par des périodes sèches où ton partenaire ne t'offre rien, tu ne perdras pas le nord. Comme tu ferais si ton époux ou ton épouse était la seule source d'amour pour toi, dont tu dépends. Ainsi, tu peux tenir le coup, tu peux passer à travers, tu peux résister, rester attaché au mât jusqu'à ce que la tempête se calme. Et parfois, ça ne se calme pas. Un des profs que j'avais à la faculté théologique aux États-Unis, il s'appelait Chuck Smith. C'était un prof de théologie. Un bonhomme exceptionnel qui était marié avec une femme, peut-être la plus méchante dont j'ai entendu parler. Elle le trompait on ne sait pas combien de fois. Et elle n'était pas repentante du tout. Moi, à mon avis, l'avis de beaucoup de chrétiens, il avait la liberté parce qu'elle avait... Mais il a dit, non, je ressens un appel spécial de Dieu de rester et d'aimer cette femme. Jusqu'à la fin. Et il a fait. Elle ne s'est jamais repentie. Par la grâce de Dieu, il a un cancer. Et il est mort assez rapidement. Et pendant qu'il était mourant à la maison, elle volait ses médicaments antidouleurs pour elle-même. Mais ce gars-là, pour moi, est un exemple de ce que ça veut dire d'avoir appris à aimer quelqu'un qui ne lui offrait absolument rien, jamais, jusqu'à la fin. Alors voilà le secret du mariage, c'est d'avoir la capacité d'aimer ton partenaire pendant des saisons où tu ne reçois que peu ou pas du tout d'amour de sa part. Alors voilà les 3 éléments du mariage chrétien dont parle Timothy Keller. Et connaissez-vous le résultat de tout cela? C'est l'ultime mission du mariage. L'apôtre dit en Éphésiens chapitre 5, il dit que le mariage chrétien a la capacité de mettre en évidence la beauté de la relation entre Christ et son Église mieux qu'aucune autre réalité sur terre ne peut le faire. Vous connaissez le passage. Moi, je dois admettre que pendant beaucoup d'années, ce passage en Éphésiens m'a beaucoup dérangé. Et cela en grande partie parce que depuis longtemps, je suis conscient de mes manquements. Ils sont trop évidents. de mes lacunes dans ma relation avec mon épouse. Je suis conscient que souvent, je ne suis pas un très bon mari. Et devant la notion que le mariage est censé être la meilleure image de Christ et l'Église, je disais, bof, j'offre pas une belle image du tout. Mais depuis quelques années, je me suis rendu compte que je me trompais par ma manière d'interpréter ce passage-là. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas la qualité de la relation qu'on offre dans le mariage qui le rend glorieux. C'est pas ça qui donne l'image. C'est plutôt la mise en évidence de la nécessité de la grâce que nous découvrons dans le mariage. C'est cela qui met en évidence la relation qui existe entre Dieu et son peuple, basée sur la grâce de sa part envers nous constamment, qui libère un cœur nouveau et nous permet d'offrir de l'amour à l'autre. Et c'est ainsi que la découverte de nos tendances pécheresses mutuelles ouvre la porte à la découverte de la grâce. C'est merveilleux. La grâce est l'élément qui change la vie comme rien d'autre. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça qui démontre le fait qu'on reste ensemble et qu'on, malgré les fautes et l'un envers l'autre, on découvre la grâce, on offre la grâce et on continue ensemble. Ça, c'est l'image de notre relation avec Dieu. Pas parce que nous sommes en train de faire un très bon travail en tant que chrétien, ça n'a rien à faire. Donc la réalité qui permet à un mariage de continuer pour que le but de la transformation de notre caractère puisse s'accomplir, c'est la grâce de Dieu reçue et offerte. Voilà ce qui permet à un mariage de durer et qui le fait refléter la beauté de la relation que nous, l'Église, avons avec notre Dieu. Une relation qui tient par la grâce de Dieu. Donc à lui toute la gloire dans nos mariages. Amen.